Nous voici donc au terme de l'année liturgique qui culmine avec la fête du Christ, roi de l'univers. Prenons le temps juste cela que nous invite à célébrer l'Église, le roi de l'univers, l'entièreté de la création de Dieu. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Et l'Église aurait pu choisir des textes glorieux, des textes où le Christ est rayonnant pour fêter cela. On aurait pu mettre par exemple la Transfiguration. On aurait pu mettre la Résurrection. Eh bien, pour évoquer ce roi de l'univers, nous avons ce passage du Christ en croix, l'homme crucifié. Qu'avons-nous à découvrir de ce roi de l'univers à travers ce passage? Il est intéressant de s'arrêter demi-verset par demi-verset. On le lit souvent trop rapidement, comme si nous connaissions le passage. Alors que nous avons vu X fois des foules venir écouter Jésus, le glorifier, le rendre grâce, il se bousculait pour le rencontrer, il venait de partout. Il le voulait comme Messie, comme prophète, comme nouveau roi. Là, il nous est juste dit, le peuple se tenait là à regarder. Il faut prendre le temps de regarder cette foule. Car trop souvent, on dit, oui, ils sont tous haineux face à Jésus. Ce n'est pas vrai. On va voir vite fait, là, après, que ce sont les chefs qui, eux, haranguent. Ils essayent d'haranguer la foule. Mais là, la foule, elle regarde. Elle est sidérée. Elle est sans pouvoir, elle est tétanisée. Cet homme qui a été si bon, qui a fait tant de bonnes choses, qui a fait des miracles extraordinaires, qui a été bon avec chacun, lui qui nous a parlé de Dieu d'une manière jamais entendue avant, il est là, sur le plus infâme des lieux, une croix. Engin de torture qui fait souffrir avant de faire mourir. Ils sont sidérés. Il y a parfois des situations qui sont tellement aberrantes qu'on ne comprend pas et qu'on n'a pas la capacité de réagir. Osons une espèce de petite comparaison avec notre monde d'aujourd'hui. Nous sommes des milliards à regarder ce qui se passe et de voir que notre maison commune, comme nous dit le pape, est en train de complètement se déglinguer, complètement en train de tomber de tous les côtés et on reste là et on ne sait pas quoi faire. On nous donne des petits moyens, parfois vraiment ridicules, pour essayer de nous donner bonne conscience. Et c'est bien de les faire quand même. Mais quand on voit à côté tout le reste, comme là il nous est dit, les chefs, eux, se moquaient. Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, l'élu. Regardons tous nos chefs. Politique ou économique, cette aberration stupide d'organiser des jeux sportifs dans un lieu où il fait 50 degrés avec des climatiseurs, des milliards qui ont été mis là-dedans, des vies humaines qui sont mortes, qui sont malmenées depuis des années uniquement pour la gloriole de quelques-uns. Quand on voit toutes les affaires plus que sulfureuse, financière, stupide, absurde, de nos quelques grands chefs qui se marrent de nous-mêmes, quand on est capable d'accepter que les prix augmentent comme ça d'une manière astronomique, avec une excuse complètement bidon, on reste là tellement sidéré. Et eux, ils se moquent. Ils en ont absolument rien à faire. Déjà, le confinement avait fait enrichir les riches, et là, on continue, à partir de quelques petites guerres, excusez-moi l'expression, c'est d'une absurdité, d'une stupidité énorme, énorme. Et nous, nous sommes là, sidérés. C'est toujours le peuple qui trinque. Et il y a aussi les soldats qui se gaussèrent de lui, qui se moquent eux aussi. On peut peut-être se rappeler le début de cet évangile de Luc, où Jésus se retrouve au désert, face au mal absolu, et où il nous est dit, à la fin des trois tentations, « Le mal ayant épuisé toute tentation, il s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. » Et avec cette liturgie de ce jour, nous sommes au moment favorable, où le mal veut prendre sa revanche et il pense pouvoir tuer Dieu. Et Dieu ne dit rien. Dieu laisse se déchaîner les forces du mal. C'est toujours les mêmes outils qu'il utilise, l'avoir, le pouvoir et le valoir. Voilà son trident. Il ne dit rien. Il ne regarde pas ces espèces de chefs en train de se moquer et d'essayer de le réduire à néant. La seule chose qu'il est capable d'écouter, c'est celui qui est à côté de lui. Un brigand, un mauvais, mais un mauvais qui a compris quelque chose. Il a compris que Jésus fait confiance à Dieu et lui, il rentre dans cette même dynamique en faisant confiance à Jésus. C'est étonnant. Dans tous les évangiles, il n'y a que Bartimée, me semble-t-il, qui dit à un moment « Seigneur Jésus » pour interpeller Jésus. Seul ce larron, celui qu'on appelle le bon larron, il est le seul à s'adresser au Christ en disant « Jésus ». C'est dépouillé de tout. Il n'y a plus de titre, il n'y a plus de référent. Il y a juste un homme avec son prénom, Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et la réponse extraordinaire de Jésus, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors que notre monde va complètement à volo, que tout s'en va d'une manière terrible, qu'on peut vraiment avoir peur de notre devenir planétaire, le Christ nous montre là, sur la croix, lui, le roi de l'univers, qu'il faut rester dans la confiance. C'est évident qu'il y a des choses terribles qui vont arriver, qu'on va passer des choses bien difficiles. Mais malgré tout, le croyant, comme ce bon larron qui sait qu'il va mourir dans quelques instants, il reste dans la confiance. Il garde cette espérance absolue de pouvoir faire partie du royaume de Jésus. Et pour bien comprendre ou tenter de comprendre un petit peu mieux qui est ce roi de l'univers, il est bon de réécouter ce passage que nous venons d'entendre de la lettre de saint Paul aux Colossiens. Oui, sachons rendre grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant au pouvoir des ténèbres. Et regardons combien notre monde est dans les ténèbres. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. La promesse dite au larron est exaucée. Elle est déjà faite. Nous sommes déjà placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il nous est dit de ce Jésus qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est pour cela que l'on peut se mettre devant un crucifix et adorer Dieu qui est là, mystère des mystères. Et que tout est récapitulé en lui. Jésus est avant toute chose et tout subsiste en lui. Et Paul continue l'identité de Jésus en nous disant qu'il est la tête du corps, la tête de l'Église. Une tête ne peut vivre sans corps, un corps ne peut vivre sans tête. Christ qui est ressuscité nous irrigue de sa vie. Depuis le commencement, le premier-né d'entre les morts nous montre la route de la vie. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix, leur chose extraordinaire, par le sang de sa croix. Fort étonnant qu'on dise que le sang vient de la croix, tellement le Christ s'est uni à nos souffrances, uni à cette humanité rampante, cette humanité qui a tant de douleurs, oui, tant de souffrances, tant d'errances. Eh bien, le Christ s'est uni à cette croix que nous sommes par son sang, afin que la paix soit pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Aujourd'hui, en fêtant le roi de l'univers, nous restons totalement enracinés, liés, unis à la tête qui nous donne cette paix au cœur même des ténèbres, au cœur même de toutes les secousses que nous pouvons vivre. Sachons, comme Jésus, regarder le Père, comme le larron qui regarde le Fils qui nous amène au Père, pour ne pas tomber dans la peur paralysante, mais dans la confiance et l'espérance qui nous permettent de trouver le chemin qui nous mène à la vie. Soyons heureux et heureuses de vivre intensément cette belle fête du roi de l'univers qui nous donne de resplendir.